nous sommes ce soir dans le deuxième épisode du feuilleton « Qu'as-tu fait de ta sœur ?». Le premier était au mois de mars, certaines d'entre vous étaient là avec Virginie Jorté, qui nous emmenait dans une famille belge détraquée des années 70. Et je vous donne rapidement les prochains rendez-vous. À la mi-septembre, nous accueillerons Neptis Vert autour de son livre « Cartographie radicale », dont un chapitre s'intitule « Où sont les femmes ?». Et au mois de novembre, dans le cadre de Monde Multiple, nous accueillerons Noémie Grunenwald pour son livre, enfin à partir en tout cas de son livre « Traduire en féministe ». Et ce soir, Joëlle Palmieri nous invite au voyage, toutes sortes de voyages à travers son livre, qui a déjà d'ailleurs traversé deux fois l'Atlantique, une fois sous forme de manuscrit et qui nous est revenu sous cette forme de petit livre, édité au Québec. Donc je vais vous lire deux passages. D'abord un corpus de texte de l'introduction, enfin du préambule, et puis je sauterai directement à la fin pour vous donner la mesure du voyage que l'on fait déjà au sein du livre. Et puis ensuite, je passerai rapidement la parole à Joëlle. Et puis je lui poserai des questions à partir d'un certain nombre de phrases de son livre. Après, vous pouvez prendre des notes parce que vous aurez sûrement des remarques et des questions à faire, mais je propose qu'on les garde pour la fin. La maladie de la douleur, appelée fibromyalgie par certains spécialistes de la santé, est une maladie très répandue et peu reconnue. Elle se caractérise par des douleurs diffuses dans tout le corps, de la fatigue, des troubles cognitifs. Elle est différente de la douleur chronique associée à d'autres pathologies, rhumatisme, cancer, maladies neurodégénératives ou cardiovasculaires. Excusez-moi, je suis obligée de tourner. Joëlle nous dit que dans ce livre, son intention est d'élaborer un langage de cette maladie de la douleur, de la gérer, de la qualifier, de valoriser les savoirs qu'elle apporte et d'identifier les écueils rencontrés dans le but de les surmonter au mieux. Mais j'ai oublié que je voulais lire un passage au milieu, mais je ne l'avais pas marqué. L'algologie, soin de la douleur, est souvent considérée par le corps médical comme une sous-médecine et la fibromyalgie comme une pathologie secondaire. On observe ainsi une forme spécifique d'agnotologie, une production d'ignorance, tant la recherche médicale néglige certaines hypothèses, manque de réflexivité et répond à une stratégie qui oblitère les savoirs acquis par les malades. Cette ignorance s'accompagne de préjugés et de superstitions perpétuées par les médecins selon lesquels les femmes, animées par leurs humeurs changeantes, ou par des formes d'hystérie, se plaignent sans raison, s'inventent des maladies, imaginent des douleurs, tandis que d'autres douleurs sont jugées normales, comme les règles ou l'accouchement. La majorité des professionnels et responsables de santé continuent à dispenser une parole paternaliste qui place les patientes au rang de victimes, ayant besoin d'encadrement technique, d'assistance, de soutien, alors qu'elles devraient être considérées comme des personnes expertes d'un domaine médical spécifique. Partant de ces constats, je souhaite par cet ouvrage tordre le cou aux préjugés et idées reçues associées à la fibromyalgie, souvent traitée comme une banalité, la banalité de la douleur. La fibromyalgie est impensée. Pour en rendre compte, je choisis de regrouper témoignages personnels et analyse des contextes où cette maladie se produit et est prise en charge. Je m'adresse tant aux patientes qu'aux professionnels de santé, reconnus ou non, et à toutes les personnes qui ne savent pas de quoi je parle. Loin de vouloir prendre leur place, j'ai pour ambition de leur transmettre mon expérience, de la partager et de la mettre en débat. C'est ce que nous vous proposerons à la toute fin de cette rencontre. Et je vous lis tout à fait à la fin Je reste convaincue, nous dit Joël, que si les hypothèses que je pose ici-dessous se concrétisent, un bouleversement des définitions de la fibromyalgie, de sa gestion, de sa qualification, des savoirs mobilisés, des écueils rencontrés, se réalisera. De fait, les fibromyalgiques peuvent davantage être reconnues comme bâtisseuses de nouveaux paradigmes, de la douleur notamment, plutôt que comme destinataires d'une politique de la santé. Il s'agit de créer une connaissance qui se partage, se discute, se multiplie, se nomadise, voyage. En ouvrant une brèche dans l'expression publique, les femmes qui racontent leur fibromyalgie interrogent l'exercice de pouvoir, médical, politique, administratif, juridique, mettent en péril un fief masculin, les différents ordres, médical, politique, sportif, créant un savoir nouveau, non initié par le haut, contrepoint d'un savoir de dominant. Cette démarche a enrichi l'exercice de la démocratie en la poussant dans ses retranchements, valoriser de fait la libre expression et l'égalité des expressions entre médecine praticienne et patiente comme deux composantes structurantes d'une société en changement. Cette approche va également à contresens d'un savoir mondialisé qui a tendance à uniformiser la pensée. Elle s'accroche à chacune des identités personnelles, fortement empreintes de culture et de socialisation spécifiques, langue, urbaine, rurale, riche, pauvre, racisée, non racisée, occidentale, non occidentale, en offrant d'autres visions de la maladie. On l'a compris, le propos n'est rien moins que de changer le monde, ce dont nous avons tous besoin. Alors, première question que je voudrais poser à Joël à partir d'une petite phrase. Je suis la quatrième fille d'une famille ouvrière d'origine immigrée. Mes grands-parents, sont analphabètes. Et Joël se revendique comme héritière de Simone de Beauvoir. Donc on va peut-être lui demander dans un premier temps de nous raconter, de nous faire brièvement cette autobiographie avant de passer à l'autopathographie. Donc comment on part de cette famille pour arriver disciple, je ne sais pas si c'est le mot qui emploie, de Simone de Beauvoir, mais voilà, donc toute l'histoire.
En tout cas, merci Irène pour toute cette introduction et pour cette invitation. Merci aussi à toute l'équipe d'Entrepôt, je suis très contente d'être à vous. Figurez-vous que ça fait 40 ans que je ne suis pas venue, mais je venais très souvent à Bourges, et notamment dans je crois que c'est la banlieue maintenant. Mais bon, bref, je n'ai rien reconnu, mais voilà, je suis de retour 40 ans après. Donc effectivement, je voyage pas mal et je continue. Quoi. Là, un peu moins, mais j'ai beaucoup voyagé en France, mais beaucoup ailleurs. Donc j'ai 63 ans. Je suis effectivement féministe, je peux dire quoi je le dis, depuis l'âge de 13 ans, à la lecture de Simone de Beauvoir. Et effectivement, j'ai trouvé en Simone de Beauvoir une espèce de mère intellectuelle que je n'avais absolument pas dans ma famille, qui est donc, vous voyez, une famille de nomades, d'immigrants de longue date. C'est-à-dire que je représente la première génération qui n'a pas bougé. Mais avant moi, ils ont tous quitté un continent. Tous. Même mes sœurs ont changé de continent. Je suis la première, on s'est arrêté quand même en France. Voilà, avec effectivement des grands-parents, des arrière-grands-parents et des parents, alors surtout les arrière-grands-parents et les grands-parents très pauvres, proches de la misère, hein, et donc analphabètes, voire illettrés. Mais ça ne les a pas empêchés de connaître des langues, par exemple. Mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, même mes parents, parlaient trois langues. Moi, j'en parle vaguement une, quoi, une. Et j'ai appris les deux autres à l'école. Mais les grands-parents, mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, on les a apprises en voyageant et en changeant de pays. Donc, pour répondre, c'est ce que j'ai trouvé chez Simone de Beauvoir, c'est certes une mère intellectuelle, mais c'est aussi l'attachement à la mémoire des invisibles. Avec Simone de Beauvoir, c'est plutôt la mémoire construire la mémoire des femmes, parce qu'elles sont exclues de sociétés au pluriel par construction, donc ça c'est minimum le patriarcat. Et moi je suis totalement habitée par ça, parce que je l'ai vécu en tant que donc, fille d'immigrée, donc on dirait racisée maintenant, en tant que fille de prolétaire. Donc j'ai vécu aussi le complexe de classe, comme on dit. Et donc le fait d'être attachée à un projet de mémoire, qu'elle soit écrite ou orale, ça peu importe, ça permet d'exister. Et donc voilà, j'espère que j'ai à peu près... non, j'ai pas raconté toute ma vie là, mais j'ai beaucoup travaillé aussi. Je me suis mise à travailler, j'avais 19 ans, après des études scientifiques avortées. Donc voilà, j'ai commencé à 19 ans et j'ai repris des études, j'en avais 46, voilà, après avoir beaucoup bossé. Et j'en parle parce que là, c'est pareil, c'est un espèce de nomadisme dans le travail. J'ai aussi bien travaillé pour des entreprises privées, même des multinationales, ou des entreprises autogérées, que j'ai co-créées avec d'autres. Mais j'ai aussi travaillé dans des ministères, dans des organisations internationales, quoi, des institutions. Donc ça fait partie aussi du nomadisme et de l'héritage.
Voilà. Du passage d'un monde à un autre. Et tu as, y a un épisode, mais dont on parlera davantage peut-être demain à l'école, le passage par cette... Enfin, tu as dit que tu avais créé des entreprises, mais il y a la question du cyberféminisme, enfin, du rapport à cette forme-là d'existence des femmes et de travail sur les réseaux. Et puis il arrive donc ces douleurs... pour lesquels il faut du temps pour comprendre de quoi il s'agit. Donc peut-être qu'au fil de, notre dialogue, tu raconteras ces étapes-là, mais j'ai envie de le prendre par des moments, un certain nombre de choses que tu dis à des moments dans le livre qui me paraissent importantes pour développer ta pensée et ce parcours, et je crois qu'il se construira à travers ces réponses-là. Et je prends un passage où tu nous dis, et ça m'a interpellée parce qu'on n'y pense jamais comme ça, rarement, on le sait, mais bon. En tant que symptôme, la douleur est plutôt salvatrice. On a mal quand on reçoit un coup de marteau sur le doigt, quand on se prend le pied dans la porte. Ce ressenti n'est qu'un signal automatique envoyé par le cerveau qui indique qu'une action plus ou moins urgente est exigée, le corps étant en danger. Comme ça, tout le monde est au courant, on se brûle, il faut soigner la brûlure. En tant que maladie, la douleur est spécifique. La maladie de la douleur a en commun avec les autres maladies chroniques de devenir une composante du quotidien, une copine qu'on n'a pas choisie et qu'il est impératif d'accueillir dans sa vie, même si elle bouscule et prend de la place. Alors peut-être terminer par « J'arrive peu à peu à décrypter son langage, langage à part entière, non-verbal, ainsi que le vocabulaire commun des patientes et des praticiennes qui s'en occupent, en mettant des mots sur cette pathologie, en identifiant son type, sa temporalité, ses modalités d'intervention. J'espère pouvoir échanger. »
Alors oui, là c'est la partie autopathographique, c'est-à-dire comment on parle de sa vie à travers l'expérience de la maladie. Alors déjà, il faut savoir quand même, pour bien comprendre, que non seulement, donc je parle de la fibromyalgie parce que j'ai été diagnostiquée fibromyalgique il y a maintenant 18 ans, après une errance, ça fait quand même 36 ans que je suis malade, hein. Et on ne savait pas, le corps médical ne savait pas, donc j'ai eu droit au rhumato, au neurologue, enfin toute une pléiade de spécialistes en médecine, donc voilà. Mon premier diagnostic, c'était il y a 18 ans. Et du coup, j'ai perdu le fil de... Voilà, ça c'est typique. Bon, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que donc, j'ai été diagnostiquée fibromyalgique. Donc, il faut savoir qu'encore maintenant, en 2022, l'INSERM, donc l'INSERM, c'est l'Institut National de Recherche Médicale en France, qui est reconnu par les entités comme le ministère de la Santé ou la Haute Autorité de Santé, considère encore aujourd'hui, donc dans un rapport qui est paru l'année dernière, donc après que j'ai écrit ça, que la fibromyalgie n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Donc ça, la différence est importante parce que ça veut dire que ce n'est pas considéré comme quelque chose qui se soigne dans le langage médical. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Donc ça, déjà, c'est un premier biais qu'on vit en tant que malade. Donc, on nous dit « Ah, vous avez ça, vous avez ça ». Bon, alors, parce qu'après, par ailleurs, l'INSERM, ce que dit l'INSERM, en même temps qu'elle dit que c'est un syndrome et pas une maladie, elle fait le tri dans les symptômes et elle dit « C'est la douleur qui est le symptôme prévalent ». Il faut savoir que dans d'autres pays qu'en France, c'est pas forcément comme ça. C'est, par exemple, aux États-Unis, c'est pas pour prendre en modèle, hein, mais c'est qu'aux États-Unis, c'est pas considéré comme ça. Les maladies multisymptômes les médecins essaient de les prendre en tant que maladies multisymptômes. Moi, pourquoi j'écris la douleur impensée ? Parce que on nous oriente, quand on est médecin, quand les médecins nous orientent en tant que malade, spécifiquement sur. Alors, votre niveau de douleur, il est de combien aujourd'hui ? Et la semaine dernière, il était de combien ? Alors qu'on arrive, nous, les malades, avec, je ne sais plus ce que je voulais dire au début de la phrase, je me suis pété la gueule en arrivant parce que je ne vois pas les pavés. Le nombre de symptômes, je crois que j'ai commencé à les compter. Hein. Moi, j'en suis à peu près à 200. Et c'est très variable. Or, la médecine ne s'est pas adressée. La médecine française ne sait pas adresser ces 200 symptômes en même temps. Donc c'est pour ça aussi que je dis qu'il y a une hiérarchisation des pathologies. Si vous avez, si vous faites une crise cardiaque, que vous avez des problèmes cardiovasculaires, hop, vous allez être évidemment orienté vers un service de cardiologie, etc. Si vous avez des problèmes de rhumatisme, on va vous... La fibromyalgie, non seulement le diagnostic est très long à poser, mais ensuite, ils savent pas le soigner, donc ça crée une espèce d'errance, ouais, plus qu'une errance, c'est une négation de tous les symptômes qu'on ressent. Donc rien que par ça, on vit de très grandes violences en fait. C'est très violent. On arrive en disant aujourd'hui je suis vraiment très fatiguée, là je suis fatiguée, j'en peux plus. J'ai fait Paris-Bourges et puis après on a marché 200 mètres, bon je suis crevée. Le médecin il ne va pas entendre ça, il attend que vous disiez alors mais votre douleur elle est à combien ? Alors que vous arrivez avec je suis vraiment fatiguée là, vous ne pouvez pas m'aider sur la question de la fatigue. Et un autre jour ça sera, j'arrive pas à aligner deux mots. Ah moi ça m'est arrivé hyper longtemps de dire. Souvent, quoi. Bon, alors vous savez, j'ai un métier un peu... je suis un peu quand même journaliste, chercheuse, donc je suis un petit peu amenée à lire et à écrire. Et parfois, je ne sais plus ce que je voulais dire au début de la phrase. Les médecins s'en foutent de ça complètement. Ça, ils zappent. C'est ça aussi le manque de réflexivité de la médecine. Il n'y a pas de réflexion sur... C'est quoi ces multisymptômes ? Qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'expérience vécue de la personne malade ? Donc, j'arrive à là où je voulais arriver, c'est que de ces violences, de cette ignorance construite de la médecine, au moins française, il y a création d'une espèce de... C'est un autre symptôme qui est plus social, plus sociologique, c'est la déshumanisation. C'est-à-dire que nous ne sommes plus des personnes. Alors ça pourrait valoir pour n'importe quel malade à qui on va mettre un bracelet. Parce que si vous allez à l'hôpital, on va vous mettre un bracelet. Puis mais là, non, là, c'est pire parce qu'on a justement donc, des symptômes qui ne sont pas entendus. Donc, moi, j'ai regroupé cette déshumanisation en trois niveaux. Par exemple... Il y a la question des comportements. Et là, on n'est pas que c'est pas qu'une question de relation avec la médecine, c'est une question de relation avec tous les autres qui ne sont pas malades, mais qui sont aussi dans l'ignorance de ce que c'est cette maladie, puisqu'il n'y a pas d'information sur cette maladie. Donc, dans les comportements, il arrive, non seulement qu'on bégaye, non seulement qu'on ne trouve pas le début de sa phrase, etc., mais aussi, par exemple, qu'on jure. Ouais, je peux dire des gros mots d'un coup. Et ça, alors, ça a été prouvé par une étude scientifique britannique, que jurer, dire des gros mots, hein, putain de sa race, ça fait du bien, ça soulage les douleurs, mais aussi les symptômes. Ça, c'est prouvé. Donc, la relation des autres, et en particulier de la médecine, à nos comportements qui sont spécifiques, déjà, comme il y a ignorance, on est déshumanisé. Il y a un autre facteur, c'est le temps. Il nous faut beaucoup plus de temps, par exemple, là, pour venir jusqu'ici. C'est pas que depuis ce matin que je prépare combien de temps je vais mettre pour aller à la gare, puis après dans le train. Non, je le prépare depuis 3 semaines, minimum. Et la chaise, et ma place dans le train. On prend beaucoup plus, on anticipe beaucoup plus ce qui peut faire mal ou ce qui peut amener de nouveaux symptômes. Donc, notre temps, on le compte pas comme je le compte pas comme toi. Il y a d'autres, dans la question du temps, il y a la question de la sieste. Moi, par exemple, j'ai besoin de faire une sieste, sinon, j'ai pas fait la sieste, je suis un peu fatiguée. Et donc, c'est très difficile à faire comprendre. Le nombre de fois où je me suis entendue dire « Mais tu fais la sieste, toi ?» Mais genre, soit je suis vieille, soit... c'est anormal de faire la sieste. Ou alors, je suis une grosse feignasse, quoi. C'est le côté, elle fout rien, quoi. Et alors, le troisième niveau, qui est très déshumanisant aussi, c'est la question de l'argent. Parce que donc, cette maladie, je ne sais pas si vous la connaissez un peu, mais elle n'est pas du tout reconnue par l'administration sanitaire. Hein, donc, elle n'est pas reconnue parmi les affections longue durée, ce qui veut dire que tous les soins sont payants. Et par ailleurs, les soins ne sont pas adaptés. Donc, moi, j'ai trouvé des tas de soins qui me font du bien, mais ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc, si on veut vraiment un peu aller mieux, quoi, pas être en chaise roulante, ce qui m'est arrivé aussi, on dépense beaucoup d'argent. Ça, c'est très difficile à faire comprendre. C'est-à-dire que moi, parfois, j'ai l'impression que les gens croient que je suis une grosse bourgeoise, quoi, que je gagne énormément d'argent et que je peux me permettre de dépenser. À une époque, je dépensais 250 euros par mois, net, en soins, qui me faisaient du bien. Et donc, on croit que je gagne des sommes astronomiques. Non, ça demande à faire des choix dans sa vie qui permettent de payer ses soins qui ne sont pas remboursés. Donc c'est tout ça aussi le décalage. C'est ça aussi l'autopathographie, elle m'a servi à ça, à décrire tout ce qui est inconnu, invisible dans le vécu, l'expérience de la maladie.
Alors tu parles de ces médecines, on va dire médecines parallèles, puisqu'on ne les reconnaît pas et qu'on ne les rembourse pas. Donc on les appelle parallèles, c'est élégant. Et tu dis dans ton livre, quand tu commences à suivre des séances de shiatsu, tu dis que les indications qui sont données par la personne qui donne ces cours, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, que ces indications me permettent de prendre conscience de mon corps, de me l'approprier sans doute pour la première fois. En effet, je ne l'ai jamais connu, elle parle de son corps, car j'ai choisi très tôt de privilégier mon intellect pour m'investir dans la réflexion et l'action politique. Encline à rejeter ce corps trop maigre, ses genoux trop à l'intérieur, ce dos trop voûté, ce regard trop flou, ce ventre trop gonflé, je l'ai brisé. Au cours de la première année de shiatsu, je me sens grandir, m'étendre, élargir ma cage thoracique, me redresser, me développer, je reprends 4 cm de hauteur. En respirant dans la respiration de l'autre, puisqu'elle nous explique que c'est des cours collectifs et qu'il y a des relations entre les personnes qui assiste, participe à ces cours, en respirant dans la respiration de l'autre, pour être plus efficace dans mon shiatsu, je réapprends à inspirer, à expirer. Cet apprentissage s'accompagne du partage. Je ne suis plus seule.
Voilà, ça rejoint un peu ce qu'on disait au tout début. C'est non seulement en tant que malade d'une maladie qui n'est pas reconnue en tant que telle et qui est surtout pas prise en charge par la Sécu ni par le corps médical, donc on est déshumanisé. Et donc on est seul, quoi. On est seul au monde. Et je parle même pas au sein de la famille. Enfin, moi, j'ai mis un temps fou, plusieurs années, hein, plusieurs dizaines d'années, avant que mes sœurs, ma mère, etc., comprennent ce que je disais, ce que je pouvais dire sur j'ai mal, je suis fatiguée, etc. Donc, à un moment donné, on arrête, on renonce à en parler. Donc, moi, ce que j'ai fait, effectivement, c'est pendant de nombreuses années, je me suis oubliée, quoi. J'ai oublié mon corps, parce que la tête, elle fonctionne toujours assez bien, et je me suis noyée, j'ai plongé, j'ai foncé dans le militantisme politique. Alors, ne croyez pas les partis politiques, quand je dis militantisme politique, c'est essentiellement le féminisme. Parce que ça m'appartenait. C'est une façon d'être affiliée à d'autres. Donc là, j'étais affiliée à d'autres militantes féministes, ou à des cyberféministes, ou à des militants du libre, ou j'étais avec d'autres. Sinon, on est tout seul. Donc ça, la question de l'affiliation, elle est importante. Et donc, l'intellect, il sert à ça. Mais du coup, on n'a pas l'affiliation par le corps. Donc, effectivement, tout ce que je décris, c'est catastrophique. Ça se délite à une vitesse quand même importante. Et on ne sait pas, quoi. À part intellectualiser sur le thème « je vieillis prématurément, c'est parce que je travaille trop », ce qui est faux, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'habitation de ce corps. Le corps est vécu comme la copine qu'on n'a pas choisie. Elle est là, elle est présente. Et donc voilà, tout ça pour en venir à, moi, dans ce que j'ai trouvé dans le shiatsu et la médecine chinoise traditionnelle, c'est cette forme d'affiliation. C'est-à-dire que en shiatsu, il y a deux formes, hein. Il y a le fait d'avoir un praticien ou une praticienne qui vous fait un shiatsu, donc c'est un soin qui vous permet de ressentir votre corps de là jusque là et d'un point de vue énergétique. Et ça, donc ça casse la désaffiliation entre la tête et le corps. Et il y a le deuxième volet, c'est qu'on apprend. Donc moi, j'ai fait les deux, évidemment. Non seulement je recevais des soins, mais j'ai voulu absolument apprendre le shiatsu pour pouvoir me le faire moi-même ou le faire à d'autres, partager. En fait, c'est toujours la question de la transmission et de la mémoire. Et donc, en vivant ça, en vivant le partage, la transmission, en respirant dans la respiration de l'autre, je me suis réaffiliée par le corps à d'autres, ce qui était pour moi totalement innovant. Et alors, le ressenti, il est exceptionnel. Effectivement, j'ai appris quelque chose. Bon, maintenant, je suis un peu à l'aise. Si vous voulez, je vous fais des shiatsu. Mais c'est vraiment ce sur quoi j'insiste aussi dans le bouquin. Donc, sans faire une thèse sur les sens et les énergies, etc., ce qui m'a vraiment sauvée, c'est le toucher. C'est-à-dire, soit se toucher soi-même, donc ça, c'est les doin, c'est prendre conscience de son corps, donc, et qu'il y a des tendons, et qu'il y a des muscles, et qu'il y a des os, et qu'il y a des articulations, et que voilà, il y a des cartilages. Par exemple, si je fais ça, je sais ce que je travaille, en fait. En me tirant l'oreille, je sais exactement ce que je suis en train d'apaiser, par exemple. Ou, bon, je ne vais pas les faire, bon, après, il y a plein de points, voilà. Donc, voilà, je ne sais plus où je voulais en venir, comme d'hab. Le shiatsu, ce qui m'a sauvé, c'est le toucher. C'est-à-dire que après, faut tomber sur les bons praticiens, parce qu'il y a des praticiens qui sont trop invasifs, c'est même pas la peine, ou trop durs, quoi, trop violents. Mais moi, j'ai trouvé j'ai cherché, hein, je cherche très souvent, mais j'ai trouvé des bons praticiens. Et l'intérêt du toucher, qui a été reconnu d'ailleurs l'année dernière par l'Académie des Nobel, parce que les prix Nobel de médecine de l'année dernière, c'est sur la question de la neuroception. Donc c'est vraiment le toucher. Donc dans les cinq sens, le toucher, c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. enfin le reste non plus, pas trop non plus lié à l'odorat, le goût, etc. Et donc là, de sentir, mais vraiment de se concentrer sur le fait que, par exemple, on vous touche le bras, on vous malaxe le bras, de sentir ce que ça produit sur le corps, c'est un immense savoir. Et donc ça, non seulement c'est un immense savoir, c'est un apprentissage de son corps, et donc l'arrêt de la dissociation, ce qu'ils appellent le chêne c'est l'esprit et tout ça, là, l'intellect. Donc c'est reprendre, ressouder tout ça, là, mais sans justement, sans, pas le souder, mais le raccorder, raccorder la tête avec le reste. Et donc tout ça devient beaucoup plus fluide. Et rien que ça, ça fait du bien.
Et puis, tu analyses de manière plus précise ce que ça fait, pas seulement sur ton corps, sur ton esprit, mais sur tes comportements, sur ta vie. Et tu nous dis un peu plus loin, dans un chapitre qui s'intitule « Qualifier la douleur », « Je me représente plus aisément la maladie comme m'empêchant d'en faire davantage ». Et paradoxalement, je considère qu'elle m'arme pour faire beaucoup et bien. En fait, la fibromyalgie fait voyager sans relâche à l'intérieur d'un refuge dans lequel s'entrechoquent émotions fortes et peur du danger, puissance et aphasie, lutte et paix. Donc on est encore dans cette question du voyage et... tu poursuis, alors c'est un peu plus loin, mais on est dans le même fil. J'apprends alors que l'expression de mes symptômes s'inscrit dans l'histoire contemporaine, tout en faisant la preuve d'une créativité que je ne soupçonnais pas. Je me sens légitime à écrire, la création n'étant plus, comme je le crois, jusqu'alors réservée aux artistes, éminences grises ou autres personnalités médiatisées. J'entretiens cette douleur et renforce la fatigue, j'en arrive à la conclusion que loin de la combattre, j'en ai besoin pour vivre. Et tu reviens à cette question du corps, le corps étant immobilisé par les injonctions parentales, par les peurs, par des traumatismes enfouis, le cerveau a intensément et alternativement besoin de s'occuper ou à l'inverse de se vider. Donc on est, là j'ai des petites phrases tout au long et assez éloignées les unes des autres, mais on est toujours dans ce fil à la fois du paradoxe de cette copine dont tu te serais bien passé, mais que finalement le fait qu'elle soit là, ça te fabrique une autre vie en fait, et tu apprends des choses, et tu et de même le corps, le rapport entre le corps et l'esprit. Donc on est dans toute une série de paradoxes que tu analyses tout au long du livre et qui me paraît importante de sur laquelle j'ai envie de te questionner, quoi. Que tu nous en dises plus.
Je crois que c'est ça pour le coup, en tant que malade fibromyalgique, je crois qu'on le vit quotidiennement, jamais à la même intensité, c'est variable, mais le côté le paradoxal, le côté ça va pas du tout, j'ai mal, je veux pas sortir de mon lit, c'est pas possible, mais en même temps il faut que je réponde à la reine sur la question du livret parce que je n'ai pas assez assisté sur la question, c'est permanent, cet aller-retour est permanent, c'est-à-dire qu'il y a un corps qui pourrait ne faire que ça, peser d'insupportable et donc voilà, et s'arrêter. Et il y a un esprit qui est là qui dit « Ouais, non, mais il faut encore que j'écrive ou il faut que je lise le machin parce que sinon je ne vais pas être assez bon. » Et en fait, c'est le... Ça, j'ai trouvé un philosophe qui parle de ça, qui en parle très bien. C'est la relation entre éprouver et agir. C'est l'épreuve de la maladie et ressentir la douleur, la fatigue, etc. C'est une épreuve. Permet d'agir pour surmonter cette épreuve. Bon, Nietzsche aussi en parle de ça. Alors, on peut tomber jusqu'en bas, et soit on y reste en bas, soit cette épreuve de l'abîme, nous dirait Nietzsche, nous invite, plutôt que nous pousse, nous invite à sortir de là. Quoi. Soit on y reste, soit on sort. Et ça, le fait d'éprouver et donc d'agir est une source de savoir. Ça, je l'ai compris assez vite, heureusement. Parce que du coup, ça, c'est très stimulant, ce paradoxe, cette contradiction permanente entre l'épreuve, elle est super dure, mais elle est aussi créatrice de savoir. Alors les savoirs, de quoi je parle, c'est certes des savoirs sur la maladie. On apprend soi-même ce qu'on ressent et comment on s'en sort, comment on le traite, comment on en discute parfois avec les médecins qui soit ils ignorent, soit prennent des notes. Donc, on apprend sans cesse sur la maladie. On apprend aussi sans cesse sur la santé, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire que, ok, on a la relation avec les médecins qui est plus ou moins intéressante, mais donc on apprend des mots aussi. C'est-à-dire on apprend beaucoup de mots, les pathologies, etc. Bon. Mais on apprend beaucoup de choses sur le domaine de la santé. Donc la Sécu, le ministère de la Santé, je vous passe sur les maisons, comment on appelle ça, les trucs pour les handicapés, là, pour avoir une reconnaissance. Parce qu'il faut imaginer que c'est très difficile de travailler dans ces conditions, que d'avoir un travail rémunéré. D'aller au travail tous les jours, il y a quand même beaucoup de fibromyalgie qui n'y arrivent pas trop. Donc ça crée beaucoup de précarité et ça non plus, ça n'est pas pris en compte. Donc ça nous fait aussi une connaissance de ça. C'est comment on fait avec cette précarisation? Comment on gère ça? En fait, on crée des solutions. Mais c'est pas que ça. On a la maladie, on a la santé. Mais du coup, on est vachement balèze dans le domaine du travail. Comment on négocie? On avait un contrat, machin, alors du coup, alors on ne peut plus faire le contrat à temps plein. Donc, alors je vais négocier de passer en... On devient hyper expert en toutes sortes de contrats ou de missions ou de machins. Mais aussi, on est hyper balèze en transport. Parce que on ne peut plus si facilement aller... moi, j'habite dans le sud-est de la France. Donc il a fallu que j'aille à Paris. Après, il faut que je prenne le train à Austerlitz, machin, pour aller à Bourg. Et ça, c'est permanent aussi. C'est-à-dire que ça, c'est les grands voyages. Mais les petits voyages... j'habite en milieu rural, à la campagne, pour se rendre, par exemple, à sa consultation de neurologie. Moi, la mienne, elle est à 65 km de chez moi. Évidemment, il n'y a plus aucun, quoi, évidemment. Il n'y a plus aucun transport en commun. C'est sud-est, hein, c'est PACA. Donc, comment je fais? Donc, je cherche des solutions, est-ce que je prends ma bagnole qui me... Alors, en plus, maintenant, il y a le coût de la voiture, etc. On a plein de solutions pour se rendre à... on les trouve. Le truc, c'est qu'on les trouve. Ça, c'est le transport. Sur l'urbanisation, on est hyper balèze aussi. Toi, je te faisais... on a voyagé ensemble quand même de Paris. Et je lui faisais remarquer tout ce qui n'allait pas. Le petit trottoir, celui qui que forcément, on se le mange, et que... parce qu'on le voit pas. Parce que, je sais pas, il faut imaginer que la perception, c'est ça aussi les troubles cognitifs, la perception n'est pas la même que quelqu'un qui est en pleine santé, quand même. Et donc, moi, la petite marche dans la gare, je ne la vois pas, donc je me la mange, donc je tombe. Et tout est comme... Et les marches du train, voilà, pas du tout prévues pour des gens qui peuvent... Moi, mes jambes ne me tiennent plus, par exemple. Il me faut une rampe. Si je n'ai pas la rampe, comment je fais? Et ça, ça vaut pour tout. Alors, je ne vous parle même pas... J'ose même pas vous parler des lieux de culture. Je ne vais plus au cinéma. Là, j'ai demandé une autre chaise. Je ne fais pas la queue. Voilà, ça. Je ne vais plus au cinéma. Pourquoi? Parce que je ne peux plus faire la queue. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas tenir debout plus de 5 minutes, grand max. Je ne peux pas... les sièges au cinéma, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, je n'en peux plus. Donc, de toute façon, je ne regarde plus le film. Et bah, évidemment, je ne joue pas sur les spectacles de théâtre. C'est très rare que j'ai un bon siège. Ou alors, il faudrait que je dépense beaucoup d'argent. Enfin, bref. Donc, on devient expert dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Alors après, c'est là où il y a la création de savoir. C'est le fait de gérer la maladie, le fait de vivre ses paradoxes et ses contradictions. On a conscience de la créativité. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvée toute seule, celle-là, quand même. J'ai été aidée, j'ai quand même des praticiens qui m'ont beaucoup aidée. De réaliser qu'on fait œuvre de créativité tous les jours. Pour surmonter l'épreuve. Donc c'est ça aussi la créativité. Et moi, quand j'ai compris ça, bon, c'était quand même assez, il y a assez longtemps, donc ça va, je suis contente. J'ai jamais autant... J'écrivais déjà beaucoup, je lisais beaucoup. Mais là, le fait de dire, ah ben ouais, finalement, je suis créative, alors qu'effectivement, je croyais que c'était un truc pour les artistes, moi, la créativité. Là, le fait de comprendre que, par exemple, dire ce que je suis en train de dire, c'était de la créativité, ça m'a libéré complètement tout le côté littérature, donc tout le côté l'écriture, la lecture, je suis beaucoup plus, c'est beaucoup plus fluide. Donc à cet égard, pour toutes les personnes dans la salle ici qui se sentent valides, c'est, je dis bien qui se sentent, qui ne croient pas qu'ils ou elles sont, qu'elles ou elles sont malades, j'aurais quelques conseils à vous donner. Non, mais sérieux, on est vachement... Quand on a conscience de ça, et quand on y travaille, évidemment, sinon on ne survit pas de toute façon, on a plein d'enseignements à transmettre. Voilà, sur la petite marche, sur les fauteuils, sur... qui c'est qui porte mon micro qui pèse 4 kilos, là? Personne n'a prévu un pied. Non, là, j'exagère, mais c'est comme ça tout le temps. C'est présent. Là, si c'est pas pour critiquer, c'est pour que... Vous comprenez ce que je pourrais apporter, par exemple, dans l'organisation d'un événement comme celui-là. J'aurais, mais sans réfléchir, pensé au porte-micro. J'aurais pensé aux chaises. J'aurais pensé à la table à hauteur, parce que là, il faut que je me penche pour écrire. Ça, je ne peux pas mettre mon cahier sur mes genoux pour écrire en même temps que porter mon micro. C'est juste impossible. Donc voilà. Et ça... Donc ça, c'est ce qu'on appelle le validisme. On est dans des sociétés validistes. Donc ce n'est pas du tout penser tous les empêchements de créativité. La créativité ne se résume pas donc à l'artistique. Donc l'éprouver, ça permet de le savoir, de le connaître. Et ça peut se transmettre au valide.
Oui, alors en même temps, il y a plein de moments où j'ai envie de te dire, mais... alors deux choses... D'une part, quand on te voit et qu'on t'entend, si tu parles d'autre chose, on n'imagine pas. C'est-à-dire que depuis qu'on se connaît et que j'ai compris, parce qu'on s'est rencontrés avec Joël, je lui ai parlé d'un événement qu'on était en train d'organiser avec Isabelle d'ailleurs, et elle m'a tout de suite dit tout ce qui serait vraiment très très malin qu'on fasse. Et elle m'a dit, mais moi je ne pourrais pas, je ne ferai pas parce que je ne peux plus. Et donc elle m'a expliqué, sauf que chaque fois qu'on se voit, je me dis, mais moi je ne le sens pas qu'elle a mal. Tu vois, c'est... voilà, alors après, il y a des moments, effectivement, donc on sait qu'il faut faire attention, mais alors, d'une part, il y a ça, cette invisibilité. D'ailleurs, à la gare, tu m'as dit, c'est fini, maintenant je prendrai une canne, dont elle n'a pas besoin, elle a juste besoin d'une canne comme signe, pour qu'on fasse attention à elle, dans la rue, dans les transports, etc. Et effectivement, je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est... Et l'autre chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses dont tu parles, dont on peut se dire, mais moi aussi, il m'arrive ça, moi aussi j'ai ces questions-là et ces problèmes-là. Genre, je ne sais pas à la fin de la phrase ce que j'ai dit au début, alors en ce moment je fais beaucoup de rencontres autour de mon livre, je suis venue présenter ici il y a quelques mois, et ça m'arrive souvent de dire, voilà. Mais surtout, là, mais ça c'est peut-être mes neurones qui vieillissent, je ne sais pas, ou que c'est mon imagination va vite. Et... Donc tu vois, il y a des choses sur lesquelles on se retrouve. Quand tu parles des paradoxes, j'ai envie de rien faire, et justement pendant ce temps-là, ma tête elle tourne et elle fait que, ben oui, je me lève parce que vraiment, il faut que je l'écrive, cette phrase, maintenant qu'elle a tourné. Voilà. Donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire, il y a cette... oui, et c'est... J'ai envie de dire, ce que tu racontes peut faire prendre conscience aussi de certaines expériences qu'on a et qu'on ne formalise pas forcément comme ça. Et peut-être j'ai envie de passer à une autre...
Je voulais juste dire que ça me fait énormément plaisir ce que tu dis, parce que c'est très rare, ce genre de réflexion.
Ah oui.
Ah ben oui. Mmh. Que par l'expérience de la maladie, j'ai pu transmettre des informations qui sont liées à l'expérience, à l'expérimentation. Donc c'est ça, ce que je parle aussi de la différence entre l'explicitation et l'explication. Moi, je n'explique pas la maladie. Je ne dis pas pourquoi j'ai mal ou pourquoi je suis malade. j'explicite, c'est-à-dire je parle du comment du vécu de la maladie. Et ça, c'est très différent aussi dans la transmission. C'est pour ça que toi, tu te reconnais. C'est parce que j'explicite plutôt que je n'explique. L'explication, c'est pas très intéressant, en fait. Mm-hmm. Alors, bon, et ça ferait... Bon, là, on va pas partir là-dessus, mais ça ferait partie d'un projet pédagogique féministe, par exemple. Mm-hmm. De s'intéresser à comment on explicite... Donc là, en plus, tu parles de 65 000 trucs en même temps. De ce langage, ça ne se voit pas, effectivement. Ouais. Je n'ai pas la canne, je ne suis pas dans une chaise, je ne suis pas comme ça. Donc c'est ça aussi le langage non-verbal. Donc comment tu explicites un langage non-verbal, pardon, il y a aussi le toucher du shiatsu, c'est un peu compliqué, et c'est comment ce langage non-verbal, on arrive à le transmettre à d'autres. Ça, c'est passionnant, c'est un sujet à part entière. C'est l'explicitation. Je voulais aussi dire, avant que tu lises un extrait, c'est ça aussi qui fait de nous des patientes expertes. Quoi qu'on dise, la médecine, évidemment.
C'est au cœur du livre et on va peut-être y venir un peu plus précisément. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ce livre, alors, il se trouve que Joël a écrit ce livre quelques mois avant que je commence à écrire le mien, donc Exploser le plafond précis de féminisme à l'usage du monde de la culture, je le rappelle. Et donc j'ai relu plusieurs étapes du texte de Joël. Et ça m'a totalement passionnée. Et il se trouve qu'elle a trouvé un éditeur à peu près en même temps que moi j'ai trouvé un éditeur et qu'elle a relu mon livre. Et voilà. Et c'était le cas aussi avec Virginie qui était là la semaine dernière. Alors au-delà de ce hasard de circonstances qui fait qu'on est trois copines, mais enfin il y en a une qui habite à Bruxelles, l'autre dans le sud de la France et moi on ne sait pas où je navigue. Après on se rend compte que quand même il y a des choses qui se parlent entre nos livres. Et si le livre de Joël m'a intéressée, la fibromyalgie, si je veux être honnête, peut-être ça m'intéresse que parce que ma copine, elle a ça. Et puis peut-être j'en ai une autre finalement qui me dit « Ah mais peut-être c'est la fibromyalgie que j'ai aussi. » Mais bon, en gros, personnellement, ça ne me concerne pas. Sauf que son livre me concerne parce qu'il aborde plusieurs, à travers cette histoire, cette autopathographie, il aborde plusieurs thèmes qui me concernent personnellement dans ma vie de tous les jours. Et d'ailleurs, et un certain nombre de choses dont des échos se trouvent dans mon livre aussi. La question de l'expertise, donc sur laquelle on va revenir, par exemple, ça croise évidemment complètement. Après, son livre, c'est aussi un précis de féminisme. Et ça, c'est clair, forcément. Et donc voilà, ce pourquoi je voulais dire l'importance de ce livre en tant que, à partir d'une histoire singulière, et là on peut parler évidemment aussi de la question des savoirs situés. Ça commence quand même son livre par « Qui parle ?»« D'où je parle ?» comme on dit aussi. Ça, c'est un vrai sujet féministe aussi. De toute façon, quiconque parle, parle de quelque part, et s'il n'avoue pas, et s'il ne dit pas d'où il parle et qui il est, et qu'il prétend être neutre et avoir une parole universelle, eh bien, c'est pas vrai. Voilà, tout le monde parle de quelque part, et quand on impose des savoirs du haut, ça vient de quelque part, et ça prétend être universel, et sachant, mais c'est pas vrai. Voilà, donc je vais peut-être lire un autre passage, et je pense que c'est le dernier que je vais lire, mais ça ouvre suffisamment de pistes, et puis on pourra échanger après rapidement. Où tu nous dis, comme la plupart des fléaux, viol, féminicide, sida, il convient, comme pour la plupart des fléaux, viol, féminicide, sida, etc., il convient, entre guillemets, de soutenir les victimes en leur conseillant de cultiver leur estime de soi, de travailler le deuil, plutôt que de désigner, juger et sanctionner les coupables. Et ici, les politiques publiques de santé ignorantes, la libéralisation et la financiarisation du système de santé, le corps médical sexiste, la culture ambiante culpabilisante. Cette logique fait des victimes les seules coupables et donc responsables. Donc à vous de voir comment vous allez vous sortir de là où vous êtes, alors qu'on est dans une démocratie où on prétend qu'il y a des politiques publiques qui devraient servir à ça. Et le livre montre très bien comment les politiques publiques ne sont pas adaptées à traiter ce type de maladie, elles sont peu adaptées à traiter beaucoup d'autres choses. Et là, la solution que tu proposes, c'est l'introduction justement de patientes expertes dans le processus de prise en charge médicale ou complémentaire, crée une dynamique collective d'identification de ce qu'est réellement la fibromyalgie. Mais ça, on peut l'adapter et l'adopter pour toute autre sorte de sujet qui nous préoccupe au quotidien dans la vie.
Oui, alors là, c'est pareil, ça fait partie du processus. Quoi, ça va avec le processus de déshumanisation qui nous est imposé dans les sociétés dans lesquelles on vit. C'est le processus d'individuation. T'es malade, t'es fatigué, sans doute t'as eu un souci cette semaine, ou ça n'a pas été comme tu voulais au boulot. Tout est personnalisé. Comme si, et aussi, surtout, comme si la solution ne pouvait venir
que de toi,
que de soi, en tant que malade, en tant que violée, en tant que... Bon. Or, la situation, elle est collective. C'est-à-dire qu'on n'est pas malade parce qu'on a été visé et c'est tombé sur nous. Non, c'est un contexte général, justement universaliste, qui ne prend pas du tout en compte les singularités et la force, la richesse des singularités qui nous empêche, j'essaie de ne pas tomber dans le panneau, mais franchement, il faut imaginer dans les salles d'attente des unités de douleur ce qu'on entend, ou dans certaines séances de soins, c'est il faut renforcer l'estime de soi, vous allez y arriver, hein, c'est un deuil à faire. La maladie, c'est un deuil sur votre corps qu'il faut faire. Mais j'ai entendu ça, mais c'est terrifiant. Alors que on le voit en tant que malade, le problème, il n'est pas du tout individuel. Donc, moi, effectivement, c'est toute la fin du film, j'allais dire, la fin du livre. C'est que non seulement c'est de montrer tous ces trucs-là, donc la déshumanisation, l'individuation et le décollectif, et que donc en tant que malade, ça demande, et donc ça demande aussi pour les autres en fait, un engagement qui est politique au sens il faut changer, on a besoin de changer l'existant, on ne peut pas compter sur les autres parce que les situations dans lesquelles nous sommes ne nous permettent pas de penser la sortie de l'individuation par exemple. Donc ça, c'est toute la partie passer du, moi ce que j'appelle passer de l'intime au collectif, parce que par exemple ce que je n'ai pas dit encore, c'est que tout ce travail d'affiliation avec les autres, de rebranchement de l'esprit et du corps, de sortir de la déshumanisation, etc., c'est quand même très très intime, hein. C'est-à-dire que moi je me mets à parler de trucs. Tout le monde ne parle pas de ça. Je parle de moi très, très finement, je dirais. je raconte des choses qu'on entend. Pareil, on ne l'apprend pas à l'école, ça, de parler comme ça, de soi-même, de son corps. Et donc, ça, pour moi, ça, je l'ai rencontré, heureusement que j'ai voyagé un peu quand même avant. Je l'ai rencontré en Afrique du Sud, donc sur la question de l'épidémie du sida, quoi, de la gestion de l'épidémie du sida. C'est, au lieu de renvoyer chaque malade, notamment du sida, dans sa future mort, c'était ça quand même en Afrique du Sud, c'est comment, en libérant l'intime de chacune, en l'occurrence c'était beaucoup de femmes, parce que c'est une majorité de femmes qui sont... quoi qu'on en dise, c'est plus majoritairement des femmes qui sont infectées par le sida que des hommes en Afrique du Sud. comment, en exprimant leur intime, alors leur intime c'est très large, mais c'est quand même très intime, on peut libérer du collectif. C'est ce qu'on appelle l'intime collectif. Et ça, pour moi, c'est une école. Pour le coup, c'est une école de pensée. C'est comment imaginer, là, je vous dis ça, je ne sais même pas si vous comprenez ce que je dis, parce que comment passer de l'intime, il faut imaginer, là, si je vous dis intime, vous pensez à quoi? Vous n'êtes pas obligé de le dire, mais chez vous, c'est quand même, le mot intime, c'est très particulier. Et je fais la proposition de la mettre sur la table, en fait. Et de le rendre collectif, de le mettre ensemble et de faire des liens, justement. Oui. Sinon, on reste dans l'individuation. Et ça, c'est un programme libéral, universaliste, antiféministe, etc.
Alors c'est justement là-dessus que j'allais finir, en disant que ce dont tu parles, de ce que tu as rencontré en Afrique du Sud, tu parles aussi d'un épisode où tu vas à Dakar. Donc, il y a beaucoup de ce que Joël élabore comme solution collective qui vient justement de ces voyages et de ces rencontres, singulièrement dans des pays d'Afrique. J'ai envie qu'on termine là, enfin qu'on ouvre ce dialogue aux réactions, aux questions que vous pouvez avoir, mais aussi à vos réactions sur ce que ça peut vous... faire comme écho chez vous.
Je vais ouvrir.
J'adore quand Isabelle ouvre. Tiens. Et alors, c'est ce micro qui va circuler.
Oui, on va voir comment il fait circuler ou pas. Merci beaucoup, Joël, pour cette... on verra comment... Prendre la parole, moi, la première réaction que je voudrais d'abord, c'est évidemment un grand merci, parce qu'il y a une chose qui est très importante dans ce que j'ai pu entendre, dans cette idée de non pas d'expliquer, mais d'expliciter, c'est finalement, ce que j'ai entendu, c'est comment on met en place des stratégies dans la vie pour se positionner, en fait, et ne pas dire que c'est, on est inadapté au monde, mais il y a un monde qui est inadapté à l'accueil de toute personne qui peut avoir une maladie chronique, une maladie ou un handicap, quel qu'il soit en fait. Donc ça, c'est effectivement un renversement qui est important et qui amène aussi dans cette idée d'expliciter et de se positionner. Évidemment, c'est comment on transmet ces stratégies-là, comment ces stratégies-là peuvent parler, fabriquer, construire ensemble. Et alors ici, je voulais juste dire que pendant des années, on a travaillé sur la question de la maladie comme partenaire. Avec le collectif Kimera Rosa et avec d'autres artistes, notamment à partir de la maladie telle que le cancer ou le sida, justement. Et cette notion de partenariat, elle est aussi intéressante parce qu'on est partenaire effectivement avec une maladie avec laquelle il faut s'organiser. Et donc, comment on s'organise aussi avec les autres. Et ce que je trouvais passionnant, c'est comment finalement dans cette idée de partenariat avec une maladie, donc le partenariat aussi dans la façon dont on s'explicite, on se positionne au monde et on devient expert et dont on peut transmettre des choses. C'est finalement arriver effectivement à cette notion d'expertise qui n'est absolument pas reconnue d'un monde qui vous désigne comme inadapté alors que c'est peut-être ce monde-là qui n'est pas adapté et qui finalement n'est pas adapté dans cette histoire-là. Ça, je trouve, c'est une vraie question à se poser. Et par contre, à travers cette idée-là, j'avais quand même une question, puisque tu as parlé du shiatsu, c'est est-ce que la médecine orientale, ou ce que peut apprendre les médecines orientales, est-ce que il y a possiblement d'autres pistes et d'autres types de rapports à la maladie ou pas? Est-ce que tu as identifié ce genre de choses? Et voilà, j'avais cette question-là, puis après, sur cette question de partenariat.
Je vais commencer par cette question-là. J'ai même fait des études, j'ai étudié auprès de praticiens, notamment de Shiatsu, mais pas uniquement. Tout ce qui est... Alors, on ne dit pas médecine parallèle ou alternative. Moi, je le nie complètement, ce vocabulaire. Je sais qu'on le dit dans le courant.
Voilà, je l'ai dit parce que...
C'est reconnu, quoi. Au niveau de l'OMS, du coup, je me redresse. Au niveau de l'OMS, on parle de maladie,
de médecine.
Médecine complémentaire. Complémentaire à ce qu'on appelle la traditionnelle. La traditionnelle étant la médecine. En France, pour déjà arriver à ce qu'on dise complémentaire au lieu de parallèle alternatif ou je ne sais quoi, ou du bien-être. C'est là, je faisais un petit crochet là. Donc dans toutes les, chez les thérapeutes, en plus ils ne peuvent pas s'appeler thérapeutes parce qu'ils sont considérés par la médecine, enfin bon, c'est tout un pataquès juridique là pour le coup. Donc, chez les praticiens de médecine orientale, le problème, c'est qu'ils sont vraiment gentils, hein, puis ils sont très attentionnés. Non, l'intérêt de ces pratiques, c'est qu'il y a une autre approche de l'écoute, qu'elle soit verbale, quoi, orale, ou du corps. Ça, c'est indispensable. C'est pour ça que je me suis orientée vers ça. C'est qu'au moins, on se sent écouté au moins par le toucher, quoi, ou par les mouvements, quoi, le fait de pouvoir bouger son épaule alors qu'on croit qu'elle est complètement coincée. Ça, c'est du langage, et c'est surtout un échange. Mais alors le problème, je dois bien le dire ici, puisqu'on me pose la question, parce que j'ai fait des interventions là-dessus, hein, auprès de praticiens du shiatsu, donc ils étaient 180. Leur connaissance, quoi, leur approche de, alors je dis même pas du féminisme, hein, ça j'en parle même pas, de pourquoi une telle prévalence féminine de cette maladie. Non seulement ils ne se sont jamais posé la question, ou ils le savent, donc c'est quand même 90%, quoi, entre 80 et 90% des malades, et il y a entre 1 et 4% des malades en France, des personnes en France qui souffrent, qui sont diagnostiquées fibromyalgie, donc ça fait quand même 2 millions de femmes en France qui souffrent de fibromyalgie et à qui on n'apporte aucune solution sanitaire. Donc les praticiens, j'y reviens, eux sont intéressés à apporter des solutions aux fibromyalgiques, mais ils n'ont aucune réflexion sur, je vais essayer d'être clair, sur la relation justement à cet intime qui est quand même féminin et en quoi ça participe d'une élaboration, quoi, une piste d'amélioration, et je trouve pas le mot là, de la pratique. Ils sont très très loin de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont insensibles, mais dans leur formation elle-même, de praticien, c'est tellement pas le sujet. Le sujet, c'est tellement effectivement le corps, comment mieux traiter la personne, mais c'est la personne, c'est l'individu, je dirais même. C'est pas celle qui est rejetée parce qu'elle est femme, parce que voilà. Donc on n'en est pas encore là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Mais il y a tout un travail à faire là-dessus. C'est ça la pédagogie féministe aussi, dans la santé. Il y a quand même un morceau que j'aborde là-dessus. C'est qu'on est tellement, par ailleurs, eux-mêmes, hein, les praticiens, mais aussi les malades, on est tellement dans la philosophie libérale du bien-être. C'est « Ah, vous allez vous faire masser, ça va vous faire du bien, vous allez voir, ça va vous apaiser. » C'est pas ça le problème, c'est pas ça la question. La question, c'est comment les praticiens, comment les médecins, comment les malades changent leurs pratiques ou leurs réflexions pour se rencontrer, en fait. C'est pas tant on va vous faire des guili-guili et vous allez voir, ça va être vachement mieux. C'est pas ça la question. Parce que sinon, ça, on est complètement en boucle sur cette question. Le nombre de fois aussi où j'ai entendu de la part de médecins, ah ouais, c'est bien, oui, vous m'avez parlé du shiatsu, oui, ça vous fait du bien. Oui, mais c'est normal, ça, c'est le... Je comprends que ça vous apaise, c'est le... Comment on me dit ? C'est les... Ouais, on ne dit même pas médecine, hein. Ils disent... c'est les filières, ou je ne sais pas quoi, du bien-être. Et là, alors que moi, j'étais là à leur expliquer... Donc là, je parle essentiellement des médecins, mais pas uniquement, hein, même mes contemporains et contemporaines, c'est... Mais non, c'est pas ça, la question, c'est... En fait, voilà, c'est se poser la bonne question par rapport à la maladie. Est-ce que c'est une question de poète-poète ou de médicaments, ou c'est une question plus globale de c'est quoi la santé. Donc par exemple, je vais revenir à, quand je suis intervenue auprès des 180 praticiens, j'ai quand même un peu réfléchi avant d'intervenir. La première chose que j'ai dite, c'est vous savez dans le soin, parce que eux ils peuvent l'entendre ça alors qu'un médecin c'est pas la peine, quoi, c'est encore dans le soin, il n'y a pas que le massage, il y a 30% du soin qui est dans l'écoute et dans l'échange. si vous tombez sur un shatsushi ou je ne sais pas quoi, un praticien Ayurveda qui ne vous parle pas, voilà, vous pouvez faire demi-tour, c'est le, voilà, direct. Et ça, là-dessus, voilà, là, ça a été une piste d'entrée, parce qu'évidemment, il y en a plein qui sont conscients de ça. Mais en quoi c'est spécifique aux fibromyalgiques, là, les 30% de parler et d'échanger, ça fait partie du soin, et que c'est parce que aussi on est des femmes exclues, je ne vais pas sur les détails de tous les systèmes d'exclusion, et que c'est ça aussi qui fait le soin, ça c'est le deuxième volet. Mais la piste, parce que je ne vous ai pas dit l'essentiel, vous savez combien, là il y a des études qui viennent de sortir, en France, combien un médecin généraliste passe de temps à vous écouter dans la consultation sur 20 minutes. Dites un chiffre, que je me marre. Il y a des études qui viennent de sortir là, l'année dernière. Ah ouais. Combien de temps sur une consultation de 20 minutes, c'est la règle, hein, c'est le cadre médical français. Donc les médecins généralistes, combien sur les 20 minutes ils vous accordent d'écoute, du temps d'écoute? 5 minutes. Tu dis mieux? Alors 5, 10, 3, 17 secondes.
Non.
En moyenne.
Et ça, ce qui est extraordinaire dans ce que tu. Ça me fait penser à ce que Vinciane Després a très bien décrit dans un de ses livres, je crois, avec Isabelle Stenger, c'est dans l'histoire de travail avec les animaux dans les laboratoires, etc. C'est à travers le féminisme que d'un seul coup, dans les années 70, les chercheurs, les scientifiques se sont dit que. Peut-être qu'un animal, ce n'est pas juste un système neuronal, mais que quand il y a une expérience scientifique, peut-être que les animaux participent, ils renvoient une émotion, renvoient quelque chose, renvoient une réaction, ils renvoient quelque chose, et qu'ils sont présents à l'intérieur de. Et font des choix à l'intérieur de l'expérience. Il a fallu que ce soit des chercheuses et que le féminisme amène cette question-là, de considérer. Et là, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'en fait, les patients. N'ont même pas encore acquis cette considération-là dans la médecine. C'est quand même dingue, en fait.
Mais c'est tout à fait ça. Il n'y a pas de féminisme dans la médecine, quoi. Enfin, pour résumer, voilà. Il y a un énorme travail à faire.
Qu'en France, il y a 4 médecines complémentaires, plus ou moins reconnues, enfin, pour lesquelles reconnue, je crois qu'on peut être... remboursé 2 fois par an pour 2 séances par an, quelque chose comme ça. Mais que la liste de l'OMS, c'est combien ?
4 000. Ouais. L'OMS a identifié 4 000 médecines complémentaires, dont le yoga, l'ayurvédique, 4 000 quand même. Et en France, et encore maintenant, hein, aujourd'hui, là, tout de suite, l'Ordre des médecins français, il en reconnaît 4. 4. C'est acupuncture, ostéopathie. Et alors, il faut différencier reconnaissance et remboursement. C'est pas pareil.
Ah oui.
Parce que là, par exemple, mon shiatsushi, s'il dit qu'il est thérapeute, il peut aller en taule. Hein. Il peut être poursuivi. C'est ça l'histoire de la reconnaissance. Ce n'est pas considéré par l'ordre des médecins comme un soin.
Ouais.
Donc si. Un malade ou une malade mal intentionnée, ouais. S'il a dit le mot, ils font vachement gaffe. Hein. Ils ont une déontologie et ils ont un code déontologique qui les empêche de parler de thérapie, de soins, quoi, s'ils disent soins, mais de thérapeutique, tout ça. Ouais. Ils ne peuvent pas, sinon ils risquent vraiment des ennuis. Ouais. Alors que les ostéos, les acupuncteurs, puis il y en a 2 autres, je ne sais plus lesquels c'est.
Mais les homéopathes.
Voilà, les homéopathes et le 4e. Enfin, les homéopathes sont en train de sortir, là.
Oui, mais s'ils vont être encore reconnus sans être remboursés.
Ça, c'est... Alors après, c'est le système d'assurance maladie. Mmh. Alors, ils font exactement ce qu'ils veulent. Ils sont en concertation avec personne, et encore moins avec les patients.
Ouais.
Voilà.
À qui je donne le micro? Tiens, venez le prendre, parce que...
Moi, j'avais une question. Je me demandais, est-ce que c'est une maladie qui... Enfin, en fait, comment elle se déclenche et c'est quoi la nature de la maladie? Est-ce que c'est une maladie héréditaire ou est-ce que ça se déclenche au cours de la vie suite à un événement? Enfin, je me demandais comment on tombe malade, du coup.
Alors, c'est la question difficile. Bon. Du point de vue des médecins, là on parle de la fibromyalgie, telle qu'elle est diagnostiquée en France, il n'y a pas de facteur héréditaire. Il y en a d'autres maladies qui ont les mêmes symptômes, c'est là où c'est compliqué, fatigue, douleur, etc., qui ont un, je sais plus comment il s'appelle, quoi, un gène qui est transmis. Mais ce n'est pas la même maladie, ce n'est pas considéré, ben, je vous dis, la fibromyalgie, ce n'est pas une maladie, alors que la maladie, je ne sais plus comment elle s'appelle, la maladie de Fabry, c'est un gène mal gaulé qui est transmis de génération en génération. Après, le côté, ben, comment on l'attrape, c'est quand même pas un virus non plus. Hein. Donc, effectivement, dans la médecine, les premiers trucs qu'on vous demande, c'est, on ne vous le dit pas comme ça, mais là, je vous fais un résumé, c'est vous n'avez pas vécu un trauma dans votre jeunesse, ou alors là, tout de suite, là, il ne vous est pas arrivé un truc vachement dur. Donc, quand ça arrive, effectivement, on s'accroche à ça. Donc, on réfléchit. Ah ben oui, finalement. Alors, donc ça, je le décris. Ah ben oui, alors là, je viens de faire ça, puis alors le deuil de machin, et puis alors je me suis séparée avec Bidule. On essaye de rentrer dans la case. T'as pas vécu un traumatisme, ou là, une peine sévère, ou un chamboulement dans ta vie, et que c'est pour ça que t'as mal. On essaye de rentrer dans la case. Mais en fait, en vrai, moi, avec l'expérience que j'ai, donc c'est quoi ? Ben non, ça fait quoi ? Ça fait 40 ans. Je peux même pas le dire, ça. Je suis même plus sûre moi-même que le facteur déclenchant, ça a été... Bon, j'ai eu une année complètement de merde où il y a tout qui a pété. Je suis pas sûre que ça soit ça. Ça peut être... Il y a des jours où j'ai quelques symptômes qui réapparaissent. Et là, je me rappelle mon enfance. Et c'est pas l'enfance côté maladie de l'enfance. C'est des événements de mon enfance. Et ça, c'est... En fait, c'est... Les médecins vont vous orienter... vers ça, vers ils vont vous éliminer le facteur génétique, ils vont vous éliminer le post-trauma, ou alors ils vont vous orienter vers le post-trauma, ou alors ils vont vous orienter vers la maladie rhumatismale qui fait suite à, je sais pas quoi, le truc mécanique, quoi, le physiologique. La mécanique, elle a été flinguée à un moment donné parce que vous avez fait du sport, puis après vous avez pu faire du sport. Bon. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est pour ça que je dis aussi que le terme, le nom, fibromyalgie, qui veut dire fibro, c'est les tendons, myal, c'est les muscles, et algie, c'est la douleur. Il n'est pas du tout adapté, en fait, c'est pas le mot qui convient pour décrire la maladie. D'ailleurs, il y a des travaux là-dessus en ce moment, sur, ben, pareil, États-Unis, Allemagne, Canada, un peu France ici, mais là, ici, colle. Ça s'appelle, je vais y arriver, c'est comment ça s'appelle ? La nociplastie. Donc ça, c'est tout un champ d'études médicales sur... déjà le multisymptôme, comment ça, donc évidemment la causalité, et c'est pas que la douleur. Donc ça, ils sont en train de travailler là-dessus. Hein. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Mais franchement, moi, je vous dis, hein, je pourrais pas écrire, c'est sûr que c'est parce que j'ai vécu ça que. Et puis, entre. Parce que j'en connais quelques-unes des fibromyalgiques, et parce qu'on m'a écrit, parce qu'il n'y en a pas de pareil. On n'a pas de problème. Donc c'est encore un peu flou, cette histoire. On ne sait pas. On sait pas. Ni les médecins, ni nous. On ne sait pas. Et c'est pour ça que les réponses ne sont pas les mêmes non plus. Il y en a qui vont vous dire, faites du sport. Vous allez voir. Si vous faites du sport, ça va aller vachement mieux. Moi, je marche 50 mètres dans la rue, je suis déglinguée. Mais on me dit, faut marcher 4 km, madame, tous les jours. Oui, bien sûr. Oui, oui, mais au début, c'est dur, mais... Vous y allez par pas de 10%. Moi, je l'ai fait, ça, évidemment, parce que j'essaie quand même des trucs. Je les crois un peu. Mais une année, deux années, trois années, j'essaie, je ne peux toujours pas marcher. En revanche, le shiatsu me libère, m'élargit, me grandit, me fait parler plus fort, comme je veux. Voilà. Après, voilà, on trouve... Il faut... Voilà, c'est effectivement des stratégies d'adaptation. Sans cesse. Bon, moi, je préfère les stratégies de résistance, parce que les stratégies d'adaptation, ce sont des termes qui sont utilisés par les psys. Bon, je ne les récuse pas complètement, parce qu'effectivement, ils prennent des patients d'un bout de chaîne, et puis complètement, elles n'en peuvent plus. Quoi. Et donc, ils leur parlent de stratégies d'adaptation pour, effectivement, ne pas complètement renoncer à la vie, quoi, en gros. Et donc, comment tu fais dans ta vie de tous les jours pour pas faire les courses, pour pas faire le repassage tous les jours. Bon. Et comment toi, tu construis cette adaptation. Donc, c'est pas inintéressant. Mais moi, à mon niveau, je préfère parler de stratégie de résistance. À tous, justement. Aux inadaptés qui ne se considèrent pas inadaptés. et le dominant, le Stengers, moi, ce qui m'a inspiré, c'est les savoirs de dominants qui viennent par le haut. Et donc ça vaut pour, évidemment pour les animaux, mais ça vaut aussi vraiment pour les humains, quoi.
Bonjour. Déjà, pendant toute la conférence, j'ai pas pu m'empêcher de penser, enfin, de faire un parallèle avec tous les troubles neuropsy et le travail de Julie Dachès sur l'autisme. Je ne sais pas si vous le connaissez, l'handicap invisible, ça. Et déjà, c'est pour savoir si vous avez vous aussi pu faire ce parallèle au niveau de comment les soignants traitent, considèrent du regard extérieur, etc. Et aussi la question de post-diagnostic, est-ce que ça fait une remise en question au niveau de comment vous vous percevez ou au niveau de construction d'identité, est-ce que ça remet en question quelque chose ou pas? Voilà.
Merci. Alors ça, pour la première question, là, le parallèle avec, ils appellent ça le syndrome autistique. Pareil, c'est un syndrome, hein, c'est pas une maladie. Alors là, on va pas faire une conférence sur l'autisme, mais l'autisme des femmes, là, laisse tomber. Mais effectivement, parce que comme je lis beaucoup, je cherche beaucoup, à un moment donné, je suis tombée là-dessus. C'est les mêmes symptômes. C'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette matière? Effectivement, c'est très parallèle. Vraiment, les deux sont symptômes, on les a. Peut-être on les vit différemment. Mais moi, là-dessus, j'ai pas du tout avancé, et je sais pas qui a avancé là-dessus. C'est comme la lecture du Covid-Lyon. Moi, je lis tous les trucs sur le Covid-Lyon. C'est exactement les mêmes symptômes aussi. Moi, de temps en temps, j'envoie une perche sur Twitter en disant « Ah, oh, c'est un peu pareil que les malades dits de fibromyalgie. » J'ai pas d'écho du tout. Alors que je parle quand même de l'expérience, des épidémies, du sida, etc. Il y a aussi beaucoup de cloisonnements chez les malades. Les cloisonnements, je parle de frontières, de cloisons, etc. Elles ne sont pas que chez les malades, elles sont induites par l'environnement plus global, et notamment l'environnement de la santé, qui cloisonne énormément les pathologies, qui les hiérarchise, etc. Pour répondre, si j'ai bien compris, au post-diagnostic, je ne sais pas si j'ai bien compris, oui, le diagnostic, ça transforme. C'est-à-dire que quand on erre pendant 18 ans à se demander si on n'est pas cinglé ou si c'est pas votre père qui vous a fait des trucs quand vous étiez petit, ou si et qu'à un moment donné, on vous pose un diagnostic, wow, c'est vraiment génial. C'est vraiment, ça fait du bien. Après, le truc, le post-diagnostic, c'est que ce diagnostic, il peut être invalidé. Au bout de 5, 6 ans, on recommence une boucle. Mais le fait de poser un diagnostic, je ne sais pas si j'en parle dans le livre, c'est comme si ça rassemblait toutes les réflexions et toutes les questions autour de l'expérimentation de la maladie. C'est comme si ça arrêtait, c'est comme si on mettait une borne et que, du coup, les fils, qu'on a envoyés, qu'on a tissés, on les entourait autour de au moins, il y a un repère, c'est ce diagnostic. Mais on sait qu'il peut changer. Moi, j'en suis au quatrième diagnostic. Moi, la fibromyalgie, c'est un des diagnostics. J'en ai 12. Et je fais avec. Mais c'est moi toute seule. Ça, mettre en relation les diagnostiqueurs, les différents diagnostics et les différents médecins qui ont posé les diagnostics, c'est aussi une grande bataille. Par exemple, dans les unités de douleur, moi, j'en connaissais une en Île-de-France. Mais je vis aussi l'unité de douleur à Marseille pour les faire se parler entre eux, l'algologue, le neurologue, le rhumatologue, qui sont tous dans des services différents. Il y a l'unité de douleur où là c'est à peu près transdisciplinaire, parce qu'ils ont compris quand même qu'il fallait que ça soit transdisciplinaire. Mais les faire parler avec le service qui est juste au premier étage, qui eux s'occupent de neuroception, là, le coup de on se brûle, on réagit. Ils ne se parlent pas, ces gens-là. Alors que ben, moi, j'ai fait l'effort de les mettre en relation. Vous pourriez vous mettre en relation avec le docteur machin parce qu'il a émis un diagnostic 2 et ça pourrait peut-être aider à compléter votre diagnostic 2. Ils le font pas. Ils le font. Bon. Alors après, ce qui est mis en avant, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils sont passés leur heure. Ce qui est vrai, hein, la réforme du système de santé, c'est l'enfer. Enfin, ben bon. Mais quand même, on sent une certaine réticence à faire des liens entre les pathologies. On reste dans la hiérarchie des pathologies. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais oui, la piste du syndrome autistique, quoi, du lien, c'est vachement. C'est vraiment une piste de recherche.
J'ai été très intéressée par votre conférence. Merci. J'étais venue à la base parce que j'ai une amie et peut-être deux amis que je pense qu'ils ont peut-être cette douleur impensée. Et donc une amie très prise en ce moment, donc j'essaie de lui apporter un peu des outils et je pense que je vais pouvoir peut-être l'utiliser à votre livre. Et sinon, il y a une résonance aussi. Bon, je travaille dans un lieu d'accueil enfants-parents, donc un AEP sur Bourges, avec des petits de 0 à 4 ans et leur maman. Donc il y a aussi tout ce côté de langage non-verbal et de choses qui ne peuvent pas se dire autrement que par le regard, les attitudes, des choses comme ça. Donc ce travail dont vous parlez sur l'intime et le fait de dire l'intime en collectif, ça résonne complètement avec ce que je vis dans le lieu et la façon dont on essaie d'accompagner ce mouvement-là. Et aussi, donc j'ai mis en place des ateliers théâtre dans des quartiers avec des enfants. Et là aussi, ça m'a parlé par rapport à l'idée de l'épreuve qui mène à l'agir, qui mène à la connaissance. Et ça va peut-être m'aider à structurer un peu ma pensée pour défendre ces ateliers-là, parce que c'est des ateliers en fait où j'essaie de partir des enfants eux-mêmes et non pas d'une idée de pièce de théâtre ou quoi que ce soit. Et donc on part aussi du corps, du qigong et de choses de relaxation, etc., de la voix. Et je me rends compte que ça fait surgir chez les enfants de manière très abrupte des douleurs, enfin des choses où ils me disent abruptement leurs difficultés. En pleine séance, comme ça sort sans filtre. Et voilà, comment moi je vais pouvoir aussi apprendre à gérer ça en collectif et d'accueillir cette parole ou ce comportement. Parfois ça peut être des cris ou des choses exubérantes, mais de ne pas le cataloguer dans c'est une douleur, c'est ta douleur, en gros tu te débrouilles avec, et arriver à le faire parvenir au collectif comme quelque chose qui concerne tout le monde. Et donc je trouve ça très intéressant. Bon voilà, j'ai pris plein de choses dans votre conférence et j'en ressors nourrie, pas par là où je m'y attendais, mais merci beaucoup.
Merci à vous. En tout cas, bon, je ne sais pas si tu l'as dit comme ça, en fait la dernière partie du livre, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Ça se veut être un manifeste, c'est un manifeste féministe sur la santé, sur comment envisager la santé et pas les malades, ce qui est très différent. Et donc il y a un petit guide pratique qui m'est inspiré par ce que j'ai observé en Afrique du Sud sur les malades du sida. C'est vachement bien. C'est très précis. C'est juste, je vois à peu près, quoi, ça m'a beaucoup parlé ce que vous dites. C'est en fait inversé. Il y a beaucoup de. Voilà. Il faut imaginer, de la même manière que je parle de patientes expertes, les enfants aussi, ou les animaux, sont des experts qui nous apprennent autant que. Voilà, c'est renverser déjà ça, c'est mettre à égalité les expressions. Comme une source de connaissance. Et donc, c'est sans fin. C'est sans fin. Et avec les mots, moi je ne travaille pas avec les enfants, mais justement, si parce que la séance de Qigong se passe mal, et que l'enfant a mal, mais qu'il ne dit pas j'ai mal, il hurle, quoi. C'est ça qu'il faut entendre. Et c'est. Demain, je parlerai. Je vais faire des parallèles sans vraiment faire des parallèles, mais ça c'est aussi inspiré par l'Afrique de l'Ouest. C'est comment. Donc j'ai travaillé avec des ados, 15-25, sur les questions de mutilation génitale féminine et sur l'utilisation d'Internet pour lutter contre les mutilations génitales féminines en Afrique de l'Ouest. Et donc on était une équipe de chercheurs et tout ça. N'empêche que. Ça je vais en parler demain. C'est ça aussi la réflexivité de recherche. Le parti pris de la recherche, c'est d'inclure ce qui s'appelle le corpus, donc, ceux qui sont censés être observés, donc là c'était les jeunes qui subissent dans leur cœur tout ça, les mutilations génitales, et les garçons qui sont les frères d'eux, c'est de les mettre au cœur de l'élaboration des concepts. C'était génial pour tout le monde. C'était génial pour eux parce qu'ils se sont du coup appropriés. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils ne pouvaient pas. On a appris énormément. Et donc on a énormément fait évoluer la recherche, l'approche de recherche sur la question des violences sexuelles en Afrique de l'Ouest. C'est vraiment totalement inversé tout ce qu'on connaît en matière de recherche, mais aussi voilà, dans la pédagogie.
J'ai une question qui émane de quelque chose que je suis en train d'observer, parce que tu transmets beaucoup d'énergie et quelque chose de finalement assez joyeux dans toute cette affaire-là. Et donc c'est une forme de question, parce que tu as dit à un moment donné que tu ne voulais pas expliquer ce qu'était la maladie ou en parler trop, parce que, bon, pour connaître ça aussi avec d'autres choses, c'est vrai qu'il y a un truc qui est toujours terrible quand on commence à parler de maladie ou de symptômes, de syndromes ou de souffrance, c'est évidemment ce qu'on peut appeler la pitié ou la compassion très triste qui fait que finalement on a envie plutôt de se camoufler et de dire non, ça va, tout va bien. Voilà, pour éviter d'avoir à subir ça, entre guillemets. Et donc du coup, ce qui est intéressant là, c'est qu'en disant explicitement, voilà, j'ai quelque chose, mais voilà comment je peux agir, qu'est-ce que je fais, encore une fois, quelles sont les stratégies, en fait, ça transmet quelque chose de finalement qui anime, en fait. Voilà, qui anime d'une manière ou d'une autre, et donc du coup, ça dit, alors, on peut faire des choses, voilà, donc on va tout de suite chercher le pied, machin, etc. Parce que ça met en action, en fait. Voilà. Et donc, finalement, il y a quelque chose, sans parler d'être trop excessive avec la question de la joie, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là.
Et ça aussi, c'est un héritage du féminisme. Dans le féminisme, on n'a jamais lutté en disant « Oh là 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 là, les violences, c'est terrible, on est violés tous les jours, vous savez. » Non, bien sûr que c'est là, bien sûr que c'est atroce, et les incestes, et on passe tout ça. Bon, c'est abominable, je ne parle même pas du massacre des sorcières, vraiment. Moi, je dis pas d'idée, moi, je parle d'incarnation. À un moment donné, par l'explicitation, par le poser des questions, déjà, sur pourquoi les incestes, pourquoi les violences, pourquoi tout cela, ça nous change de cellules. Voilà. Et ça nous incarne. À partir du moment où il y a incarnation, il y a de la joie. Oui, c'est ce que je ressens. Rien que de dire ça, je suis contente de pouvoir dire ça. Parce que c'est pas souvent que j'ai l'occasion de parler comme ça. Parce que voilà, le côté paternaliste que tu décrivais au tout début, là, c'est on nous renvoie, ma pauvre madame, alors ça va aller aujourd'hui, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Non, non, moi ça m'intéresse pas du tout. Ça. Parce que ça, on est complètement en boucle du paternalisme, du... surtout pas rendre compte, surtout pas sortir les exclus de ce qui n'est pas inclus. Donc c'est vraiment ça, c'est l'incarnation. Demain, je parlerai de déracinement épistémique, c'est-à-dire comment les systèmes de domination, tels qu'ils existent, qu'ils soient de classe, de race, de sexe, nous, non seulement font de telle sorte que les dominants ne sont pas informés, ne veulent pas s'informer des savoirs créés par les dominés, mais c'est comment aussi les dominés ont intégré cette part de non-incarnation des savoirs qu'ils peuvent créer. Bon, je ne sais pas si c'était clair, mais c'est ça aussi. Et ça, le déracinement épistémique, je ne l'ai pas inventé toute seule non plus, hein. C'est la lecture de Vinciane, mais c'est aussi la lecture de philosophes indiens et indiennes.
Starbuck aussi.
Ouais.
Qui est-ce qui veut le micro? Merci. Du coup, moi j'ai une question, mais je ne sais pas s'il y a une réponse. C'est du coup comment est-ce qu'on fait pour se soigner, s'aligner dans ce système, en sachant que déjà avec du coup la situation sanitaire, il y a des soignants, des praticiens qui ont sauté, qui ont été radiés. comment en tant que nous, étudiants et étudiantes qui sommes là, on fait, par exemple ici à Bourges, il n'y a pas de médecin généraliste qui prenne de nouveaux patients-patientes. On se retrouve à aller aux urgences entre nous en bagnole, à envoyer des messages catastrophés. Et c'est compliqué même pour trouver des ostéos, des psys, parce qu'on ne sait pas si c'est des gens secs, etc. Qu'est-ce qu'on fait en plus avec, ne serait-ce que déjà cette médecine-là qui est genre mainstream et la médecine glorifiée, glamourisée, et où est-ce qu'on va chercher, quoi. Et comment aussi on, peut-être on aborde les conseils qui nous sont donnés, par exemple, quand vous disiez faire du sport, c'est vraiment ce truc-là de oui, il faut activer le corps, il faut le faire par l'exercice, et comme ça, qu'il guérit, alors qu'en pratique, c'est pas toujours vrai, ça s'adapte pas à toutes les formes de maladies ou de symptômes ou de syndromes, mais voilà, du coup c'est juste une question un peu ouverte de comment ça va.
Moi je peux vous répondre ouvert, créer, créer des collectifs, créer des formations à comment on fait avec un désert médical, créer des... de la pensée sur comment on pense ça, on ne peut pas y aller, il n'y en a plus des toubibs, et de toute façon les toubibs ne connaissent rien cette maladie, voilà. Ou on ne peut pas aller au sport parce que de toute façon si je fais de la zumba ou je sais pas quoi, de machin, de cardio, de training, je suis cuite. Faites-le, vous. Là, il y a une fille qui habite à Nantes, je crois, qui a lu le livre, qui m'a écrit. Je me dis, bon, alors moi je suis dans la, comment ça s'appelle, l'éducation populaire, j'ai pensé à... Donc c'était les solutions, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense créer des formations... Non, est-ce que vous... Non, la question c'était, est-ce que vous savez s'il existe des formations pour se soigner en tant que fibromyalgique? Je n'allais pas lui dire, faites du shiatsu. Moi je pourrais dire ça. Je pourrais dire, oh, faites du shiatsu, c'est formidable. Non, je lui ai dit, ah ben, on va concevoir la formation, ça n'existe pas, faisons-la. Ça l'a hyper emballé, parce qu'elle, elle a tout le côté méthodologique de l'éducation populaire, et moi, j'ai toute la connaissance et la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire de cette maladie, justement, et quelle suite on peut donner à toutes ces réflexions, parce que c'est sympathique, le côté réflexif, mais c'est... Et on fait quoi, là? Donc, voilà, il faut créer. C'est tout est en chantier, là. Moi, je parle de chantier.
Et tu racontes très concrètement qu'à un moment, tu as mis en place, dans ton village, tu as convaincu la mairie d'y mettre quelque chose, peut-être un local, apparemment pas grand-chose, mais
c'est plus que ça.
Pour avoir un centre, ben, je sais pas, voilà. Disons...
Donc, j'habite dans un village de 3000 habitants. Je suis pas du tout élue, hein, mais j'entretiens des relations avec... l'équipe municipale, au début, c'était pas ça du tout. Justement, c'était la journée internationale des femmes, le 8 mars, on a fait des trucs. Après, j'ai fait des trucs sur, je sais pas quoi, l'entrepreneuriat en milieu rural. Enfin, je fais quand même pas mal de trucs en tant que militant. Et là, un jour, j'ai dit, bon, j'étais voir le maire, je lui ai dit, il faut qu'on fasse un truc sur la santé. Et lui, il a des idées en tant que maire. C'est ça aussi la pluridisciplinarité. C'est lui, il a la connaissance de comment il mobilise du pognon, par exemple, en tant que maire, même d'un village, pour, si je parle de santé, lui, il a un truc qui se déclenche. À l'époque, il pouvait avoir des subventions pour créer des centres de santé en milieu rural. Et donc, en parlant, moi je ne savais pas ça, donc, en parlant avec lui, on a monté un projet. Donc c'est non seulement ils ont mis à disposition des salles, donc gratuites, hein, pour les soins de malades. Là, c'était plus général, c'était toute maladie chronique, mais aussi du fric. C'est-à-dire que quand on sait un peu l'aspect juridique, est conseillé le sport. Le sport pour les fibromyalgiques, ce sont les activités physiques adaptées. On sait maintenant qu'il y a des praticiens d'activités physiques adaptées. Ces activités physiques adaptées ne sont absolument pas prises en charge par la Sécu. Mais en fouillant bien, on apprend au détour de conversation, etc., que ça peut être pris en charge par les collectivités territoriales. Ça, c'est l'expertise sur la décentralisation. On est très malaise aussi sur la décentralisation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec le maire et l'équipe municipale? J'ai dit, bon, OK, la salle, c'est super. Moi, j'amène les praticiens, j'amène les malades. Et vous m'amenez le pognon pour que les malades y payent moins cher, parce que justement, c'est tout le côté, le problème de la précarisation des malades. Donc les malades ont payé, la mairie a payé la moitié des coûts des séances. C'est sacré. Village 3000 habitants. Bon, après, c'est complètement tombé à la ramasse. Mais pas que à cause du Covid, c'est qu'ils ont changé d'équipe municipale et que la nouvelle équipe municipale n'a pas lu. On avait fait des dossiers comme ça, vachement bien argumentés, etc. Ils n'ont pas lu. Donc ils ont décidé, moi, c'est terminé. Donc ça, c'est terminé. Et moi, alors là, pour le coup, il y a plein de personnes un peu malades qui m'ont dit, mais maintenant, après le Covid, là, tu y retournes pas, tu vas pas aller voir la mairie. Non, non, ça y est, c'est bon. Moi, je distribue les concepts et les méthodes. Après, ça c'est comme pour Transborder, je ne fais pas forcément parce que je ne peux pas, quoi. À un moment donné, je ne peux pas, je ne peux plus. Donc voilà, moi j'ai des outils, j'ai des boîtes à outils, j'ai des boîtes à concepts, je les distribue. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, franchement.
Vous faites à plusieurs.
Voilà. Mais tout est à créer, hein, parce que c'est tout.
Ben oui, ben
ouais. La question de la santé,
ben oui.
S'organiser.
Ben. Puis tu disais, c'est un sujet sur lequel vous aviez travaillé à une époque.
On a aussi notamment accueilli un collectif barcelonais qui s'appelle Ginepunk. On avait travaillé avec les filles sur la question de la gynécologie, comment se rapproprier en tant que corps femme, les questions de la gynécologie. Donc, quand on est soigné des différentes maladies sexuelles ou autres, on ne sait même pas ce qui se passe. Pas,
Là, et la question dans la boîte à outils, non seulement il faut inverser il est préférable d'inverser les logiques d'expertise et pédagogique, mais il est vraiment par expérience, toujours pareil, c'est de croiser les regards. Hein. Donc le maire, les élus, mais aussi les praticiens que je faisais venir, quelle vision ils ont de cette création de centre de santé dans un village. Les villageois, enfin, pas tous, on ne va pas faire un référendum non plus, mais voilà, les patients qui sont intéressés, qui se sont manifestés. On a fait une enquête quand même, hein, au niveau local, sur. On a lancé un appel qui peut être intéressé par ce dispositif. Donc on apprend à chaque fois, l'idée c'est aussi d'enrichir la boîte à outils. Donc de croiser les regards des uns et des autres. Donc si vous faites un projet collectif de réflexion sur la santé, l'accès à la santé pour les jeunes, et en particulier pour les soins obstétriques, essayez de trouver des toubibs, je ne sais pas, des gynécos, ou je ne sais pas, pour les associer à la réflexion. Peut-être qu'au début, ça va vous gaver, mais peut-être que eux vont vous apporter un... Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé ça. Moi, je verrai comme ça. C'est pas du premier coup, quoi. C'est des essais, c'est des touches. On fait des essais et on finalise. Et après, ça peut s'effondrer. La preuve, dans mon village, ça s'est effondré.
Oui, puis aussi, comment on accède à des médecins autres que via les médecins généralistes, parce qu'il y a pas mal de méthodes, en fait. Ouais. Mais il faut.
Est-ce que quelqu'un se précipite sur le micro? Moi, je voudrais te dire deux choses avant de finir. Ça, c'est une proposition de Céline qui est pas avec nous ce soir, mais on a fait un petit livret où il y a quelques extraits du livre. Donc, ils sont à disposition avec le livre qui, lui, est en vente. Le livre dont on a parlé la dernière fois est en vente aussi ici. Et je voulais dire une autre chose, parce que c'est tout ça en écho. Il va sortir le 3 juin, je ne vais bêtement pas apporter, un petit livre qui s'intitule « MeToo Théâtre ». C'est un recueil des textes qui ont été lus lors du premier rassemblement MeToo Théâtre à Paris et qu'une maison d'édition a édité. Et c'est extrêmement important parce que ça croise certains sujets qu'on a... aborder là sur justement le pouvoir descendant, comment dans les écoles de théâtre, et des témoignages, et des analyses, et des propositions. Donc c'est un petit livre qui coûte 10 euros. Et voilà, donc vous le rencontrerez sans doute dans les librairies dont je voulais en parler. Et merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on peut se parler encore un peu informellement. et oui. Puis
avec les éventails
à côté du micro. Et pour les élèves de l'INSA et avec Catherine demain après-midi. Je crois que c'est ouvert d'ailleurs.
C'est ouvert, hein, si parmi vous, ça m'étonne et certaines veulent venir à l'école des Beaux-Arts. Et c'est salle à Colombage. Voilà. Si vous demandez à Colombage, et on va vous guider.
Et on parlera donc d'autres choses, mais qui sont en lien avec cette histoire-là. Et après, ben, on se retrouve, si vous le voulez bien, pour chercher ce qu'on a fait de sa sœur à la mi-septembre. Merci. Merci,
Gabriel. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.